jusqu'à 11h, était bien frappé.
Ce soir, Malines reçoit Bruges pour le premier match de la première journée de championnat belge de football. Et pour marquer le coup, après être passé en librairie devant le nouveau livre de Thomas Gunzik, La stratégie du hors-jeu, toute l'équipe de votre été bien frappée s'est dit qu'il fallait inviter Thomas, non seulement pour parler de foot, mais aussi littérature. Ça se tient, je trouve. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors ça vous fait quoi d'être dans ce studio sans café serré
C'est très étrange, j'ai l'impression d'être un examen que je n'ai pas préparé. c'est un peu cauchemardesque.
Rassurez-vous, nous avons des questions, j'espère que vous avez les réponses, mais vous pouvez venir les mains dans les poches. On a tout ce qu'il faut, quoi, rassurez-vous.
Parfait, je conseille.
Donc ce livre, La stratégie du hors-jeu, il est paru aux éditions Diable Vauvert. On y apprend finalement que la vie, c'est comme le foot, qu'elle obéit à des schémas tactiques. C'est vrai ça ?
Non, en fait, moi je ne le pense pas. Le personnage qui est dans le livre le pense. Hein. C'est ce qui m'avait intéressé quand j'avais écrit ce texte. C'était vraiment comment quelqu'un qui est tout entier dédié à une activité sportive, ici le football, et qui donc a son cerveau en mode stratégie footballistique, peut relire sa propre vie comme un match de foot.
C'est une pièce de théâtre, il faut le préciser, c'est un monologue, on y suit Raymond, comme par hasard, parce que des Raymond en football, finalement, on n'en a qu'un, Raymond La Science, voilà. Raymond Goutal, c'est un vieil entraîneur, on ne va pas dire aigri, mais en tout cas, il a vécu beaucoup de choses, et il s'adresse à un jeune joueur, et il lui raconte sa vie devant un tableau tactique, c'est ça l'histoire, le pitch de cette stratégie du hors-jeu.
En fait, il ne s'adresse pas réellement à un jeune joueur, il s'adresse à une escort girl.
Ah !
Subtile nuance. Donc c'est le soir, après un match de foot, il rentre dans sa chambre d'hôtel où l'attend une charmante jeune fille avec qui il n'a pas forcément envie de faire quelque chose de particulier, mais il a envie de lui parler de sa vie.
Il veut parler.
Voilà.
Il veut parler. Vous aimez le foot, Thomas Gunzik ?
Je n'ai absolument rien contre le foot, mais c'est pas le sport qui me passionne le plus. J'ai par exemple la Coupe d'Europe, j'étais très très content que ça se passe, mais c'est vrai que j'ai pas suivi. Et c'est pas, j'espère que c'est pas, je veux pas que ce soit pris comme une forme de snobisme ou quoi. C'est juste pas le sport qui moi me passionne le plus. J'adore le sport, les performances sportives, le côté douleur et entraînement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore le côté les athlètes en général, mais le foot, c'est vrai que c'est pas moi ce qui me mange le plus.
Donc cet euro, vous l'avez vécu quoi ? Enfin, regarder d'un œil et puis...
Je ne l'ai pas vécu. J'ai appris que les Diables Rouges avaient été éliminés. J'étais un peu déçu.
Vous savez qu'il a gagné au moins 7 euros ?
Oui, parce qu'on me l'a rappelé hier. Donc je pensais que c'était l'Allemagne. On m'a dit, mais non, c'est le Portugal.
Voilà, c'est juste, c'est le Portugal. Donc je ne peux même pas vous demander quelle équipe vous supportez.
Moi, je supporte, je ne sais pas, en fait, je ne supporte pas spécialement une équipe, vous voyez, c'est même pas terrible ce que je peux vous dire.
Ben non, parce que, alors, ça m'empêche de vous poser ma question suivante, mais je vais quand même le faire. Est-ce que vous pensez que dire le nom de l'équipe que l'on supporte, que l'on suit, c'est un petit peu comme dire pour qui on vote ?
Probablement oui, parce que c'est clivant. Hein, quand oui. On observe un petit peu les gens qui sont très fanatiques de foot, dès qu'on ne supporte pas forcément leur équipe, ça peut être perçu comme quelque chose de clivant. Ben, quand on voit les images, effectivement, aussi des postes ou pré-matchs, quelquefois à la Coupe d'Europe, il y a tout de suite des chaises qui volent et des bouteilles, des éclats de verre. Donc apparemment, on peut mettre les gens de mauvaise humeur si on ne supporte pas la même équipe qu'eux.
Oui, effectivement. Et quand on annonce l'équipe que l'on soutient et qu'effectivement l'auditeur n'est pas d'accord avec vous, on reçoit des mails d'insultes. Ça arrive.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un des rares sports où on observe ce genre de choses. Hein, parce que, par exemple, si on prend les arts martiaux, que j'aime beaucoup, les amateurs sont beaucoup plus calmes.
Ah oui,
réfléchissez à ça.
Oui, on va peut-être en faire un livre. Donc, vous n'êtes pas un tout grand supporter de foot et pourtant, vous écrivez bien le foot.
Oui, mais alors,
la preuve avec ce livre,
l'histoire de ce livre est particulière. C'est-à-dire que j'étais en vacances bien gentiment quand soudain le directeur du KVS m'appelle en me disant « Est-ce que tu veux écrire un texte qui parlera de Raymond Goutals avec Jos de Peau comme comédien ?» Et moi, quand on me dit Jos de Peau, c'est vraiment des tout grands comédiens belges, flamands aussi, mais belges d'abord. C'était une une sorte de cadeau qu'on me faisait. Donc forcément, j'ai écrit un texte qui parle de beaucoup de choses et accessoirement un peu de foot aussi.
Un peu de foot. Alors dans ce livre, bah, comme dans tous vos livres hein, finalement, vous avez le sens de la formule, vous avez une écriture très très précise. Et là, je vais quand même citer cette phrase qui moi m'a fait beaucoup rire. Et on va bien comprendre ce que j'entends par sens de la formule. Donc c'est ce vieil entraîneur qui parle de son père et qui dit... Tu aurais voulu prendre ton père par le revers de sa chemise de chef de service, cette chemise qui sentait toujours le stencil, une odeur qui piconnait. eh ben oui, vous avez une écriture olfactive parce qu'effectivement, on sent ce fameux stencil, cette encre stencilée. Comment vous faites pour écrire ça? Ce sont de longues heures devant votre ordinateur à trouver le mot juste, la phrase qui...
C'est une excellente question que vous posez là. C'est toujours... C'est marrant, ça se fait en deux temps. D'abord, avant d'écrire, on a l'enthousiasme et l'envie d'écrire. Et on croit savoir ce qu'on va faire et on croit savoir ce que ça va donner. Et puis au moment d'écrire, on se rend compte que tout ce qu'on a imaginé, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Et là, on peut passer des heures, voire des jours, pas forcément à écrire, mais à chercher la clé du texte et la façon de rentrer dedans. La façon de trouver, pas forcément le sens de ce qu'on va dire, mais de quelle manière ce qu'on veut dire va dégager une certaine forme d'énergie. Voilà. Donc trouver l'énergie potentielle dans le texte qu'on veut écrire et essayer de trouver les émotions que ça peut dégager, c'est ça.
Alors ici, c'est une pièce de théâtre, mais vous écrivez aussi des romans et des cafés serrés. Est-ce que l'écriture est différente pour ces trois exercices-là ?
Oui, elle est différente. Dans un texte dramatique comme celui-ci, il y a toujours une place qui est laissée à la mise en scène aux comédiens. Donc on sait quand on a quelqu'un comme Joss de Pau qu'il va donner une dimension neuve et supplémentaire au texte. Dans un café serré, ben on sait qu'on a X signes disponibles, 3 minutes 40, si je me trompe pas, et qu'on doit parler de l'actualité, donc forcément il y a des contraintes. Et puis dans un roman, c'est la liberté absolue, totale, le bonheur ultime.
Donc trois exercices différents, mais avec un bonheur différent à chaque fois ?
Avec un bonheur différent, mais le bonheur qui vient a posteriori, parce qu'en gros, le boulot est toujours un peu compliqué. Écrire, l'écriture est toujours... ça reste un chantier, donc on est content quand la maison est construite quand même, plutôt.
Alors, on va passer un petit peu de musique. Un petit peu de musique, et puis on parlera encore dans quelques minutes de cette stratégie du hors-jeu, parce que dans ce livre, on vous découvre à la fois romantique, logique et pratique.
Tout moi.
Si je puis... Un peu de football en musique, cette fois-ci.
La seule chose qui est sûre avec le passé, c'est que ça n'est que de la nostalgie. Le futur, ça n'est que mystère. Mais le présent est un don qui s'offre à lui.
Été bien frappé.
Nicolas Beutars.
Il est très philosophe quand même, Rodrigo Menken. Ça vous fait sourire, ça,
Thomas Gunzi. C'est magnifique. Moi, je suis grand fan. Je regarderai les matchs de foot rien que pour ses commentaires.
Ça, c'est clair. On va parler de ce match, hein, Angleterre-Argentine. Mais avant cela, dans cette histoire, dans cette pièce de théâtre, La stratégie du hors-jeu, parue aux éditions du Diable Vauvert, on vous découvre romantique. Et là, je vais encore lire un petit passage. Donc, c'est le héros qui parle de son amour d'enfance, Tinoke.
Ouais. Hein,
et il la décrit comme ceci. « Elle a des seins, mon ami, comme deux petites boscopes. Et un ventre, je ne sais pas comment te dire, il a l'air confortable comme le fauteuil d'une Opel toute neuve.
»
Mais d'où vous vient un ventre confortable comme une Opel toute neuve?
Mais oui, mais Raymond Goutal s'adorait les Opels. Hein, donc on imagine que le plaisir pour lui s'incarne comme un fauteuil d'Opel toute neuve.
Et quand vous écrivez ça, vous n'avez pas un peu honte?
Ça
vous fait rire d'abord, tant mieux.
Non, honte jamais. Honte jamais. Le tout dans une image, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle évoque quelque chose. Hein, c'est le propre, un peu de la poésie, quoi. Trouver quelque chose qui soit pas trop cliché, qui pourtant, dit bien ce que ça veut dire. Et si, qui s'est assis dans un fauteuil d'Opel toute neuve, c'est très bien que si un ventre ressemble à ça, c'est un chouette ventre.
D'accord, c'est bien. On vous découvre aussi logique dans cette stratégie du hors-jeu. Je cite encore. Hein. J'ai passé un bon moment, en fait, à lire cette pièce, même si je ne l'ai pas vue. Une pièce est toujours plus agréable à regarder, mais à lire, c'est aussi impressionnant. Donc, vous êtes logique. Vous n'aimez pas les cons, ça, on le sait. Mais alors ici, pour un méchant, la compagnie d'un con, Ça a souvent quelque chose d'agréable. Le méchant et le con, ils sont complémentaires en quelque sorte. La méchanceté du premier, ça fait rire la connerie du second.
Oui, ben ça c'est un peu l'histoire de l'humanité. Hein. C'est que il y a malheureusement toujours une légère majorité de méchants et de cons qui communiquent merveilleusement entre eux. Ben, y a qu'à regarder chaque jour, ouvrir le journal et ouvrir les informations. Et on voit très bien comment la complémentarité con-méchant fonctionne à merveille, malheureusement, pour le malheur des gens bien comme nous.
C'est gentil, ça c'est vrai, mais c'est vrai. Le con est l'une de vos cibles préférées dans ce que vous écrivez.
Disons qu'il faut pouvoir un petit peu se défendre de la suprématie des cons en général, oui. Donc on peut, je pense, un tout petit peu se permettre d'essayer de les dénoncer, de les attaquer. Voilà, c'est un peu, le travail qui est le nôtre à la radio.
Alors, on vous découvre aussi terriblement pratique dans ce livre, dans cette histoire, dans cette stratégie du hors-jeu. Vous dites encore, hein, c'est incroyable comme ça calme de penser à son enterrement.
Oui, j'invite tous les gens un peu stressés ou un peu malheureux aujourd'hui ou un peu pas bien aujourd'hui à penser à leur enterrement. Et c'est quelque chose d'extrêmement apaisant d'imaginer qui sera là, qui sera triste, qui sera pas venu, les gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ce qu'on pourra dire. Eh bien, c'est un exercice psychologique extrêmement efficace. Je pense que je l'ai mis au point et j'invite tout le monde à essayer, vous allez voir.
Alors, drôle de question qui, alors, on l'a compris, n'est pas du tout morbide. Il sera comment ? Enfin, vous l'imaginez comment, votre enterrement ?
Alors, c'est marrant, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, et alors, souvent, la réponse cliché, c'est « j'ai envie que les gens s'amusent », et eh bien moi, pas, j'ai envie que les gens soient tristes, j'ai envie que ce soit plombant, et qu'on passe de la musique classique, mais vraiment sinistre au possible, et que les gens pleurent, voilà.
Alors, c'est pas drôle, enfin, je n'irai pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je pleurerai chez moi, mais je n'irai pas. Enfin, je ne sais même pas si je reviens. Si je serais invité.
Bref. Si, ça me ferait plaisir de vous voir.
Enfin, moi, ça me ferait plaisir une dernière fois. Alors, il restera vos livres, heureusement. Dans ce livre, dans cette histoire, vous décrivez quelques grands matchs, quelques grands faits de match. Il y a bien sûr, le coup de boule de Zidane, ouais, donné par Materazzi. Et vous dites que Materazzi est un méchant. Et c'est son rôle de joueur, finalement. Ouais. Un méchant comme ça qui est
un
pourrisseur de jeu qui est là pour énerver les joueurs adverses, ouais, l'équipe adverse. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Alors, pour quelqu'un qui n'aime pas le foot, je trouve que vous décryptez bien ce qui se passe sur un terrain.
Oui, mais c'est-à-dire ce qui se passe sur un terrain, ce qui se passe sur un terrain, c'est de la relation humaine. Moi, c'est le domaine qui m'intéresse, c'est le domaine de la relation humaine. Donc, voilà, que ça soit des joueurs sur un terrain ou des employés dans un bureau ou des journalistes dans un studio, c'est toujours le même truc. Hein. Il y a les bons, les méchants, les pourrisseurs, les pervers, les champions, les génies, il y a tout ça.
Alors, vous parlez de ce match historique. URSS-Belgique. Nous étions le 15 juin 1986. Je rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas nés ou ceux qui ne s'en souviennent plus, nous avons gagné contre l'URSS. C'était 4-3. On arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était au Mexique. Et vous dites dans ce livre que on est chaque fois mené au score. Hein. C'est d'abord 1-0, et puis 1-1, puis 2-1, et puis 2-2. Et les deux premières fois que l'on marque, c'est sur hors-jeu. Et c'est ce que vous dites dans ce livre. Eh bien, je suis désolé de vous contredire, mais nous n'étions pas hors-jeu. Enfin, quand je dis nous, Schiffo n'était pas hors-jeu et Keulemans n'était pas hors-jeu. On se réécoute le goal d'Enzo Schiffo.
En avant.
Sur Cotteron, une balle travaillée, un centre en banane, une occasion, pas d'hors-jeu Schiffo. Le but ! But égalisateur d'Enzo Schiffo ! Magnifique ! Le centre de Cotteron ! 10 minutes et demie ! Centre de Vercotteren, précision millimétrique et reprise de Schiffo. Pas de mouvement du juge de ligne. Schiffo venait derrière la défense soviétique. Splendide, un but partout. J'espère qu'on va nous le remontrer 10 fois ce but.
oui, nous aussi. Donc voilà, il n'y a pas d'hors-jeu. Bon, qu'est-ce que ça vous fait ?
Alors, sur la question du hors-jeu ou pas, dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il y a un grand débat. J'ai pas mal lu sur Internet parce que je connaissais pas tellement le match. Mais donc, j'ai lu, j'ai revu le truc. Il y a débat, on ne sait pas. Et évidemment, les auteurs, comme moi, sont avant tout des arrangeurs de la réalité. Ils arrangent la réalité comme ça arrange le mieux leur texte. Et peu importe finalement la réalité, ce qui compte, c'est que ça fonctionne dans le texte. Donc, dans le cas de ce texte-là, ce qui m'arrangeait bien, c'est qu'il y ait eu hors-jeu. Et donc, je prends une des versions possibles de la réalité de ce match.
C'est vrai. Donc ça, c'était pour le goal de Schiffo. Effectivement, Chifoy, les caméras n'étaient pas ce qu'elles étaient, en tout cas. Il n'y avait pas 150 000 caméras comme aujourd'hui, ou même un entraîneur, maintenant, qui va dans sa culotte, s'est filmé, et on est même plus tranquille au bord d'un terrain. Donc, pour Chifoy, il n'y avait pas hors-jeu. Par contre, pour Kelemans, là, on hésite encore, on écoute.
Dégagement de Moll. Sur Kelemans, il est hors-jeu. Non, goal. Et que dit le juge de ligne? Il a fait lever le drapeau, il hésite. Que fait cet homme? C'est entre ses mains que se trouve notre sort. Roger, vous l'observiez, le juge de ligne?
Oui, eh bien, assez curieusement, moi j'avais le regard porté précisément vers le juge de ligne. Il a hésité, il n'a pas levé son drapeau. Et puis à un moment donné, il a levé, puis il a rebaissé aussitôt. Alors, et l'arbitre est venu le consulter, je crois qu'il accorde le but.
Quelle est la décision? Ce ne sont de toute façon pas les Soviétiques qui vont contester bien longtemps. On remonte le terrain, c'est marqué, c'est valable.
Eh ben voilà, c'est marqué, c'est valable. Donc là, il y avait suspicion. Et effectivement, là, je crois qu'il est hors jeu.
Ça arrange mon texte. Ça arrange mon texte et ça arrange évidemment le commentaire ici du vieil entraîneur pour qui cette victoire est une victoire volée et une victoire avant tout politique dans un contexte de guerre froide qui était celui des années 80.
Bien sûr. Nous allons continuer de parler de cette stratégie du hors-jeu avec vous, Thomas Guzik, juste après ceci.
La première
était bien frappée.
Oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur la première, la nouvelle chaîne du foot finalement.